Bonjour et bienvenue à votre émission Au rythme de l'Église. Je m'appelle Mario Ringuette et je serai l'animateur ce matin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monseigneur Claude Champagne, qui viendra nous parler de Santé catholique internationale. Tout d'abord, Monseigneur.
Bonjour, Mario.
Bonjour à vous. J'espère que vous passez un bel été jusqu'à présent.
Jusqu'à date, écoute, j'ai eu mon temps de vacances, je suis revenu et on prépare l'automne doucement.
On commence à reprendre la routine.
Absolument.
Bon, dans l'introduction, je mentionnais, Monseigneur, que vous venez nous parler de Santé catholique internationale. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est comme organisme?
Oui, c'est peut-être bon qu'on le dise, puisque parfois dans l'horaire du mois, ça apparaît que l'évêque participe à Santé catholique internationale. Alors, dans le fond, des communautés qui avaient des hôpitaux. Pensons aux sœurs des hospitalières de Saint-Joseph, qui avaient autrefois l'hôpital d'Edmundston, le foyer Saint-Joseph, et qui ont créé l'hôpital de Saint-Quentin, l'hôpital de Perth and Dover, et ailleurs dans la province, même jusqu'en Nouvelle-Écosse, en Ontario, et même aux États-Unis. Les religieuses étaient en charge de plusieurs hôpitaux et maisons pour accueillir donc les personnes âgées abandonnées. Alors, ça allait bien lorsque le recrutement était assez fort, mais depuis les années 60-70, évidemment, le recrutement de ces communautés-là a diminué. Et rendu au début des années 2000, les religieuses ont réalisé ne plus être en mesure d'assurer la gestion de ces endroits-là. Et ils ont bâti un genre de parrainage et regrouper certaines de leurs institutions. Alors, les hospitalières, les Filles de Jésus, les Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur et les Sisters of Charity of Immaculate Conception ont mis ensemble leurs institutions et ont confié ça à un conseil d'administration qui exerce un parrainage qui, dans le fond, se préoccupe d'assurer que dans les institutions fondées par les religieuses, on retrouve la même tendresse de Jésus envers les malades. Hein, c'est peut-être un peu ça qui fait que les disciples de Jésus ont créé une foule d'institutions et d'hôpitaux parce que l'amour que Jésus avait dans le cœur pour les malades les a poussés à faire pareil pour les gens qui étaient malades dans les milieux où ils étaient. Alors, on veut assurer dans ces milieux-là que l'esprit de Jésus, l'esprit les valeurs de l'Évangile sont maintenues et que on accueille même les gens qui n'ont pas les moyens. Mm-hmm. On accueille les petits, les pauvres, qui dans certains hôpitaux pourraient rester à la porte parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Et peut-être qu'on a un regard de foi sur les personnes. On ne réduit pas la personne à son cancer ou à sa maladie du cœur, mais on accueille la personne dans tout ce qu'elle est, corps et âme, si tu veux, cette personne qui est aimée de Dieu. Cette personne qui, au-delà de la mort, va entrer dans la vie en plénitude. Donc, c'est ce regard de foi-là qui anime les hôpitaux, les résidences qui se disent catholiques.
Est-ce que vous aviez des exemples, mettons, dans un hôpital, de choses qu'on ne peut pas faire vu que c'est un hôpital catholique?
Bien, c'est-à-dire, on va vouloir traiter les gens comme des personnes. Et je trouve ça très beau. Depuis 20-30 ans, avec Jean-Paul II, Benoît XVI et François, il y a une journée internationale du malade, le 11 février, où on reprend les traits évangéliques pour dire ça devrait animer les personnes qui s'occupent des malades dans des hôpitaux qui se disent catholiques. Donc, la compassion, la tendresse, c'est pas seulement une job qu'on fait pour gagner sa vie. Il y a comme une dimension de vocation, de prendre soin des malades.
L'accompagnement.
Et oui, puis de réaliser que ces personnes-là, même lorsqu'ils ne sont plus capables d'exprimer leur reconnaissance, leur gratitude, elles gardent leur dignité de personne humaine jusqu'à la fin. Donc, c'est cette vision de foi qui devrait animer les personnes qui travaillent dans des institutions qui se disent catholiques.
Moi, je travaille à l'hôpital de Saint-Quentin, et puis on m'expliquait aussi que vu que c'était un hôpital catholique, il n'y avait pas le droit d'avoir d'avortement.
Ben, normalement, ça va contre les valeurs ou les convictions de la foi catholique. Donc, c'est évident qu'on va être plus réticent à poser des gestes comme ça. On va essayer de rejoindre les gens dans leurs difficultés, on va essayer de les soutenir, mais il y a peut-être des gestes qu'on ne posera pas parce que ça va vraiment contiquer la conviction profonde de la communauté de l'Église.
C'est un peu comme l'aide médicale à mourir
c'est
aussi.
C'est un peu la même difficulté qu'on peut rencontrer parce que pour l'Église, c'est important d'accompagner les gens dans les soins palliatifs qu'on prône et on est prêt à les accompagner jusqu'au bout en les soulageant, mais en les entourant d'amour et non pas en mettant fin à leur jour avant que naturellement ça arrive. C'est ça.
Une autre différence qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on voit encore des crucifix dans la cuisine, dans les passages. Ça, on ne le voit plus à nulle part quand ce n'est pas un hôpital catholique, mais à Saint-Quentin, on le voit.
Parfois, il y a une question d'un respect. Si on est dans un milieu pluraliste, bien sûr qu'on accueille des gens qui ne partagent pas notre foi, qui peuvent être de d'autres communautés chrétiennes ou de d'autres traditions religieuses ou ne pas avoir de foi religieuse. On veut les accueillir avec la même compassion, la même tendresse. Est-ce que ça pourrait arriver que des endroits, ça heurte quelqu'un qui est le crucifix? On va être attentif à ça.
Oui.
Mais c'est sûr que pour nous, la croix et Jésus sur la croix vient comme donner un sens à la souffrance qu'on peut vivre.
Vous avez parlé que cet organisme-là, Santé catholique internationale, ça a été fondé en 2000.
C'est
environ.
Autour des années 2000, oui, qu'on l'a mis sur pied. Et ça regroupe, c'est intéressant, moi je suis comme représentant de l'Église, comme il y a un évêque qui siège sur ce comité-là. Parmi les gens autour de la table, il y a des gens qui ont une grande expérience du milieu hospitalier. Okay. Je réalise qu'il y a des spécialistes dans les finances, il y a des spécialistes de la loi, des avocats. Donc, il y a toutes les expertises autour de la table pour bien gérer, parce qu'on dit... Si on a des institutions, il faut s'assurer qu'elles sont en santé, financièrement, et qu'elles donnent des soins de qualité. Ça reste important aussi. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on ne donnerait pas la même qualité de soins. Et ça doit répondre à un besoin du milieu. Ça me semble des choses importantes. Alors, le comité, je suis toujours un peu impressionné. Moi, je m'y connais moins dans des questions financières et légales ou des questions de santé. Mais je vois qu'autour de la table, il y a des personnes qui ont cette compétence.
On dit international. Pourquoi le mot international?
Bien, je comprends international parce qu'on a à Chicago un hôpital qui relève de Santé catholique internationale. Je pense qu'on a deux institutions dans la région de Chicago.
Okay.
Ça veut dire que des fois, on venait chercher des religieuses, des hospitalières de chez nous et qui ont rayonné au-delà des frontières.
OK. À quel endroit au Canada il y a d'autres institutions comme ça?
En tout cas, Santé catholique internationale, on est en Ontario.
Okay.
Je pense qu'on est à Sainte Catherine's, Windsor, Kingston, Cornwall. On est en Nouvelle-Écosse, à Yarmouth. C'est là que j'ai rencontré les hospitalières la première fois. Et on est dans la péninsule acadienne. On est un peu dans notre diocèse, Burton, Dover, Saint-Quentin, Hôtel-Dieu. Alors, on a un certain nombre d'institutions, puis il y en a, je pense, dans le diocèse de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick et dans le diocèse de Moncton aussi.
Donc, c'est un bon noyau quand même.
C'est environ 45-50 institutions différentes qui relèvent de ce même parrainage.
Et puis, vous avez des rencontres à tous les mois, je crois?
C'est-à-dire qu'on se rencontre à tous les mois et demi, mais il y a des fois, l'Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick qui est comme à l'intérieur du grand... Santé catholique internationale.
Okay.
Donc, il y a des regroupements à l'intérieur de tout ça. Alors, une fois par année, c'est en présentiel à Miramichi.
Okay.
C'est pour ça que votre évêque vous se promène à Miramichi.
C'est ça, vous avez des
au
formations.
Mois de juin, c'est ça. Et il y aura une formation donnée cette fois-là à Tracadie.
Okay.
Pour les gens qui travaillent dans le secteur francophone. Les anglophones ont aussi une session de formation. Alors, quand tu travailles dans ces institutions-là, on vient expliquer un peu aux gens qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans une institution qui est à l'intérieur de ce regroupement-là.
Donc, pour terminer, Monseigneur, si on peut dire, Santé catholique internationale, c'est les sœurs qui ont décidé de faire un legs, vu qu'eux autres n'étaient plus capables de gérer ces institutions-là, ont décidé de faire un conseil d'administration pour gérer ces hôpitaux-là.
De le confier à des gens qui vont garder la préoccupation des fondatrices. Donc, les valeurs d'évangile que ces religieuses ont cherché à développer se retrouveront dans les institutions qu'elles avaient créées.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces éclairages.
Vous comprendrez pourquoi, par quelques jours par année, je m'absente.
Donc, je vous remercie beaucoup, Monseigneur. Puis, moi, je ne connaissais pas du tout l'organisme, donc, puis j'imagine que plein d'autres personnes ne connaissaient pas, donc on va pouvoir les éclairer avec ce témoignage. C'était Mario Ringuette pour l'émission Au rythme de l'Église. Bon dimanche et bonne semaine.